Radio Tapis, Grand Témoin.
Ancien Premier ministre, ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre de la Justice, des Transports, du Plan et Reconstruction, actuellement député national, Joseph Nsinga Oudjou est aujourd'hui l'invité du Grand Témoin. Joseph Nsinga Oudjou, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Vous avez été plusieurs fois ministre, hein, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, et au cours de cette causerie, nous aurons l'occasion d'aborder tous ces aspects-là. Vous naissez à Sontin, j'ai bien prononcé.
Oui, oui, bien.
Dans la province du Bandundu, le 29 septembre 1934, vous êtes marié et père d'une famille nombreuse. Hein. Quel type d'enfant étiez-vous ?
Nous étions 8, 4 filles avant moi. Donc je suis le premier garçon né de cette grande famille-là. J'étais tout sauf timide. Je suis un homme qui sait défendre ses idées, écouter les autres, et surtout pas quelqu'un qui peut se faire manipuler facilement.
Donc vous étiez très vigilant, très vif.
Oui, ça a commencé déjà à l'Ovanium, déjà étudiant. En dernière année, mes collègues étudiants m'ont remarqué. Ils m'ont élu à la tête de l'Association Générale des étudiants de l'Ovanium, Université Ovanium.
Déjà à l'époque.
Oui, oui.
Nsinga Oudjou Ngwankidi Ontobe, ça c'est votre nom.
Exactement.
Qu'est-ce que ça signifie ce nom?
Ben, d'abord, Nsinga, ça c'est le nom de mon papa. Oudjou, chez nous, chez les Basakata, signifie chef. Donc, je suis né dans une famille de chefs.
Mm-hmm.
Et au moment où je vous parle, je règne sur un village qu'on appelle chez nous Kaka. Donc, le mot Oudjou signifie que je suis issu de la famille de chefs. Donc, l'exercice du pouvoir, au fond, on peut dire qu'on est né avec ça.
Ungwankebi Ontobe.
Eh bien, ça aussi, ce sont des ressources, ce sont des sources de mon papa, son clan, n'est-ce pas? Et Ontobe, ça, c'est du côté de maman.
Exact.
Voilà, donc, je porte tous ces noms-là.
Votre école primaire, c'est à la mission catholique de Macao, alors que vos humanités latines, c'est au petit séminaire de Bokoro.
Oui.
Ensuite, vous faites 3 années de philosophie et 1 année de théologie au grand séminaire de Kaboué au Kasaï occidental. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu prêtre?
Ben, c'est une bonne question. Et je crois que c'est le plan de Dieu. Parce que comme vraiment croyant, pour moi, il n'y a pas du hasard. Pour un homme qui croit au Seigneur Jésus, tout est programmé. Bon, je crois que ne me laissant pas aller jusqu'au bout de mes études théologiques, je crois que Dieu a voulu que je puisse mieux servir mon pays comme laïc et dans la profession politique.
En 1963, vous devenez licencié en droit de l'université Lovagnon ici à Kinshasa. La même année, vous travaillez comme conseiller juridique du gouverneur provincial du lac Léopold II à Inongo dans la province du Bandundu. Comment avez-vous abordé ces premières fonctions politiques?
Ben écoute, je crois que nous étions parmi les tout premiers licenciés en droit de cette université Lovagnon. D'abord, j'avais été affecté comme magistrat à Lubumbashi, Élisabethville à l'époque. Il y avait encore des problèmes. Et quand la famille s'est opposée à ce que je puisse aller m'exposer, c'est alors que j'ai choisi de rentrer chez moi. Et comme premier juriste auprès de ces personnalités pour être leur conseiller juridique. Et ça avait beaucoup de joie que j'ai exercé ces premières fonctions comme conseiller juridique.
En 1964, vous êtes ministre provincial de l'Intérieur et de l'Information à Inongo, toujours dans le Bandundu. En 65, vous êtes élu député national et député provincial. En 65, toujours, vous êtes vice-ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, la RDC se prépare au processus de décentralisation. Mais certains observateurs sont sceptiques quant à sa réussite. Quel est votre avis?
Je crois que la réussite, personne ne peut la prévoir. Mais je crois que ce pays est trop large, c'est trop étendu,
trop grand.
On ne peut pas tout décider à partir de Kinshasa. Et je crois qu'il faut décentraliser. C'est un processus presque général dans le monde. Il faut que le pouvoir s'approche de plus en plus des populations. Moi, je viens de l'intérieur. Le pouvoir est trop loin à Kinshasa. Il faut que l'État s'approche de ses citoyens. Je crois que c'est un processus inévitable. Même si on peut dire qu'il y a des difficultés d'ordre matériel, mais le processus lui-même, on ne peut pas l'arrêter.
Vous avez aussi été délégué du gouvernement aux discussions sur le contentieux d'Elgo congolais à Bruxelles, en Belgique. Où en sommes-nous aujourd'hui dans ce dossier?
Je crois qu'une grande partie de ces problèmes ont été résolus. Mais, vous savez, entre deux pays, dont l'un a été colonisé, il y a toujours des petits problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, nos relations avec la Belgique sont en général très bonnes et très efficaces.
Vous êtes cofondateur du MPR, le Mouvement Populaire de la Révolution, en 1967, si je ne me trompe pas. Quelle évaluation vous faites à ce jour du régime Mobutu et de ce parti unique?
Je crois d'abord, il faut que je reconnaisse que j'ai effectivement travaillé à la création du MPR. Le MPR avait comme but, avant que le plan Mobutu n'arrive, le pays était secoué par beaucoup de tentatives de sécession, tout ça. Donc je crois que le MPR a eu d'abord ses bénéfices de remettre tout le monde ensemble, de jeter les premiers fondements d'un pays uni. Bon, comme tout régime, tout parti politique, à ce moment-là, parti unique, il y a eu des points positifs, dont celui-là dont je viens de parler, et aussi des points négatifs. Le pouvoir était un, il n'y avait pas beaucoup de structures pour pouvoir dire non à une certaine décision de l'autorité. Là, c'est peut-être le mauvais côté. Or, je crois en démocratie aujourd'hui, il faut que la population, il faut que les dirigeants ne puissent pas tous avoir toujours le même langage. Bien que sur les problèmes essentiels du pays, tout le monde devrait avoir la même vue. Les problèmes qui intéressent réellement nos populations, je crois que là, on devrait mettre un peu de côté nos petites divergences pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Je crois qu'on doit se mettre tous ensemble pour que ces problèmes soient résolus pour le bien de nos populations. Donc, je peux dire, le MPR a eu certains points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs, et c'est pour ça que l'histoire a montré qu'il fallait mettre fin à ce régime.
Mais est-ce que vous vous attendiez, en créant le MPR, vous vous attendiez aux différentes dérives qu'a connu le président Mobutu?
Peut-être pas au début, moi j'étais plein de feu, parce que moi je crois que ce qui compte, ce n'est pas le nom du régime, de celui qui l'anime. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie politique, ce qui compte sont des actes concrets, quel que soit le nom. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique, il y a un nouveau président au pouvoir, mais ce n'est pas tellement ces changements-là. Il faut que la population sente, ok, il y a eu changement. Mais il faut que ces changements s'accompagnent des actes concrets qui profitent réellement à la population. Je crois que c'est l'essentiel. Et pas seulement on a changé, non. Il faut que les populations qui parfois exigent ces changements trouvent qu'il y a quelque chose de nouveau après ces changements. C'est ça qui est essentiel.
Thank you. entreprises, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Joseph Nsingaoudjou, ancien Premier ministre, ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Transports, ministre du Plan et Reconstruction, actuellement député national. En 1968, vous travaillez comme ministre d'État chargé de l'Intérieur. En 70, ministre délégué à la présidence de la République. Que répondez-vous à ceux qui pourraient vous accuser d'avoir contribué aux exactions commises par le régime Mobutu?
Je crois d'abord il faut dire ceci, il ne faut pas résumer le régime Mobutu uniquement aux exactions. C'est quoi, ça serait injuste. Personnellement, j'assume une partie de mes responsabilités pour les actes concrets posés par moi et pas par d'autres. Il faut déplorer. C'est un fait négatif. Je crois que comme nous avons commencé en 65, j'ai vu dans le président Mobutu un homme plein d'enthousiasme. Il voulait mettre fin à une certaine anarchie dans le pays. Mais vous savez, pour tout pouvoir, petit à petit, on commence à s'y habituer. Il y a un certain relâchement. Et surtout lorsque les gens du camp, de la famille, tout le monde commence
à s'emmêler.
À s'emmêler, à s'entourer, considérant un président, un chef, comme leur propriété familiale, privée ou provinciale, c'est là que les choses commencent toujours. Et l'histoire a toujours montré comment ça a déraillé. Mais je crois qu'au début, il y avait cet enthousiasme-là. En ce qui me concerne, si j'ai posé des actes négatifs, d'abord j'en profite pour demander pardon à mon peuple, mais en âme et conscience, je ne me souviens pas avoir posé personnellement, j'ajoute bien le mot personnellement, des actes dont je savais que ça nuisait à la population.
Entre 75 et 80, vous travaillez comme président délégué général de l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS. Le Congolais, aujourd'hui, peut-il se dire sécurisé sur le plan social?
D'abord, je crois que, partant de mon principe selon lequel il faut laisser des traces positives partout où vous passez, je crois que vous pouvez interroger aujourd'hui les fonctionnaires de ces temps-là, hein, pas la jeunesse maintenant, ils ne savent pas. Je crois que j'ai fait de l'Institut National de Sécurité Sociale un institut valable, respecté. En ce moment-là, nous sommes efforcés à satisfaire tant soit peu les besoins sociaux des non-abonnés, des non-retraités. Bon, pour répondre à votre question, je crois que la sécurité sociale n'est pas tout à fait solidement organisée dans notre pays. Je crois qu'il faut se ressaisir. Si pas maintenant, en tout cas pour les générations futures, il faut que le peuple, il faut que les travailleurs congolais, comme vous-même aujourd'hui travaillez ici, vous sachiez que les vieux jours viendront. Vous allez vieillir un jour. Il faudrait que vous puissiez travailler en toute sécurité en sachant, ok, je consens certains sacrifices financiers maintenant, sachant que lorsque je serai dans l'impuissance de continuer mon travail, il y a une source qui va s'occuper de ma vie.
Vous avez également été membre du comité central et premier vice-président élu du bureau du comité central. Puis en 81, vous êtes nommé premier commissaire d'État, l'équivalent du premier ministre aujourd'hui. Que peut-on mettre à votre actif?
Comme toujours, il faut savoir que nous n'étions pas des premiers ministres avec les pouvoirs comme aujourd'hui un nouveau système. Aujourd'hui, il s'agit d'un premier ministre, un chef de gouvernement. Et nous étions bien sûr, on appelait le premier commissaire d'État, ils se sont montrés, mais le président de la République était toujours au fond le chef numéro un. Mais il ne faut pas toujours lui incomber les faiblesses propres. Mais quand j'étais là, avec le peu de pouvoir que j'avais, mon souci a toujours été de poser certains actes, même simples, mais qui profitent à la population. Je crois que je ne veux pas m'étendre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'actes concrets sans calcul politique dont je ne me rappelle plus. Je voudrais savoir un simple petit exemple ici à Kinshasa.
Allez-y.
J'ai fait construire sur les principales avenues de Kinshasa où la population s'accumule pour attendre les moyens de transport en commun. J'avais fait construire quelques kiosques, quelques hangars pour qu'ils puissent s'abriter contre les intempéries. C'est peut-être on peut me dire oui, mais ça se. Non, ça traduisait ce souci de s'occuper des autres. Parce qu'un chef qui ne s'occupe plus des autres, il n'est plus chef. Je crois que c'est un peu ça que j'ai voulu donner comme exemple. Connaître les petits problèmes même de la population et chercher à apporter une solution.
Je laisse Nsingaoudjou. Comment améliorer efficacement la justice congolaise? Vous, qui entre 86 et 90, avez travaillé comme président du conseil judiciaire.
C'est une question importante. Dans un pays où la justice ne fonctionne pas, il n'y a pas de démocratie. Ça, il faut le retenir, parce que la justice, c'est l'État qui se constitue vengeur public. Lorsqu'il y a des problèmes entre les citoyens, l'État interdit à ce que chacun se rende justice. Mais il garantit à la personne les uns les autres, restez calme, venez vous plaindre, et moi, État, par la justice, je mettrai des choses en ordre. Bon, je crois qu'il y a une responsabilité de l'État pour que la justice fonctionne bien. D'abord, il faut la réorganiser. Il faut mettre les magistrats dans les bonnes conditions de vie et de travail. Quand je dis conditions de vie, ça veut dire que je crois qu'il y a un minimum de salaire pour qu'un magistrat puisse travailler en toute tranquillité. Parce qu'il ne faut pas se fermer les yeux. Au niveau des tribunaux de grande instance, par exemple, un juge peut condamner quelqu'un à mort. Lorsque lui-même, dans son salaire, il a à peine 100 dollars. Vous savez, c'est un homme, hein, c'est pas un ange. Je crois que même un ange risque de succomber dans la tentation. Donc, je crois qu'il faut mettre les magistrats dans les bonnes conditions de vie et de travail, travailler un minimum de conditions. J'ai toujours dit, quand j'étais président du conseil judiciaire, lorsque je voyais des magistrats être transportés en véhicule, en voiture, par une des parties au beau procès, moi, j'ai toujours dit qu'il était déjà corrompu moralement. C'est un homme qui lui a rendu service. Donc, il faut que l'État améliore les conditions de vie et de travail des magistrats. Deuxièmement, il faut que l'on sanctionne réellement les magistrats qui jouent avec la justice. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un certain relâchement. Et je crois que je ne peux pas me vanter trop. Moi, il faut prendre la population à témoin. Je crois que mon passage, mon triple passage à la tête de la ministère de la justice, surtout comme président du conseil judiciaire, je crois que j'ai marqué ce secteur là-bas. Et si demain, on fait l'histoire objective de ce ministère, on ne manquera pas de citer en tout cas jusqu'à une fois mon nom.
En 1990, vous êtes secrétaire permanent du NPR. La même année, vous êtes président du directoire provisoire du même parti État. En 91, vous créez votre parti politique, l'Union chrétienne pour le renouveau et la justice UCRJ en sigle. C'est, on se rappelle, la période hein, de chaude de la démocratisation. N'êtes-vous pas de ceux qui ont poignardé le président Mobutu dans le dos, selon ses propres termes?
Je crois que s'il y en a qui ont poignardé le maréchal, je ne suis pas le seul. D'abord, par ma formation familiale, je suis un chef. Je crois que j'avais certaines divergences avec lui, sauf cette divergence allait jusqu'à poignarder un chef. Non, un chef, on lui dit la vérité en face, même s'il n'accepte pas. Donc, je n'ai jamais apprécié les gens qui trahissent le chef. Je ne peux pas dire que j'ai poignardé, mais souvent, j'ai eu à lui dire certaines vérités, même dures. Mais c'était pour le bien public.
Était-il aussi insensible qu'on l'a toujours présenté, le maréchal Mobutu?
Je crois que pendant tout le temps que j'ai travaillé avec lui, il avait en tout cas un peu d'estime pour moi. Parce que je suis ceux-là, de ceux-là, qui n'aimaient pas le flatter. Je crois qu'on pouvait aussi vérifier avec ce qui est de cette époque-là. Je lui disais certaines vérités. Même si parfois il devait se fâcher, mais à la longue, il m'appelle. Un ou deux jours après, il me disait, mais je fais Singa, et je crois que c'est comme m'avait dit ce jour-là, j'ai vérifié, c'est bon. Je suis de ceux-là. Donc, je crois qu'il n'avait pas que des défauts, il savait écouter. Mais, vous savez, comme j'ai dit, un chef peut être bien, mais tous ceux qui fourmillent autour, ils ont aussi une grande responsabilité, ceux qui sont là pour flatter le chef, pour l'adorer. C'est quoi, sont les pires ennemis d'un chef.
Alors, vous êtes passé dans l'opposition. Pouvait-il vraiment vous prendre au sérieux en tant qu'opposant, vous?
Nous étions, moi et lui, on était devenus opposants pacifiques. Voilà. Voilà.
Bana la kanisa ki ba kotonda Toke sa ati masangwa kwa Kari ma singa singa Toke sa ati Toke sa ati Toke sa ati Kari kumbe leka Kika ndoro ma ya kwa I'm
Singaoudou, je rappelle que vous êtes ancien premier ministre, ministre d'État, chargé de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Transports, président du Conseil judiciaire, ministre du Plan et Reconstruction. Actuellement, vous êtes député national. En 1994, vous êtes ministre des Transports et Communications, ministre des Réformes institutionnelles de la Justice et Garde des Sceaux, ministre du Plan et de la Reconstruction. Entre-temps, après la Conférence nationale souveraine, vous avez occupé plusieurs autres fonctions, En 2006, vous êtes élu député national. Tout récemment, aux élections du bureau de l'Assemblée nationale qui ont consacré la victoire du professeur Évariste Beauchamp, vous avez postulé à la présidence, puis vous vous désistez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Écoutez, un homme politique est un grand joueur.
Vous étiez sous pression?
Non, moi, je ne suis jamais sous pression. Je crois que présidence, bon, après analyse avec le groupe parlementaire, Effort du Centre, nous avons juste constaté qu'il fallait laisser tomber. Bon, le groupe a estimé que je pouvais postuler comme vice-président. Mais nous sommes dans un jeu démocratique, ça n'a pas marché. Mais je crois que nous sommes là. En tout cas, personnellement, nous sommes habitués à ces jeux-là. Et c'est ça qui montre la démocratie. Aujourd'hui, il y a un nouveau bureau qui conduit nos travaux et à qui je promets toute ma collaboration. Voilà un peu le sens de ce qui s'est passé.
Entre-temps, certains observateurs lisent par là une rupture prochaine entre l'ANP, les forces du centre, l'UDEMO particulièrement.
Je ne suis pas dans ce secret. Je suis dans un groupe parlementaire dont l'artère principale est l'UDEMO. C'est l'UDEMO qui est un partenaire de l'AMP depuis 2006, je n'étais pas là. Nous attendons voir les événements.
En 2003, vous êtes investi chef coutumier de Kaka dans le groupement de Bamoche.
Bamoche, oui.
En territoire de Koutou, province de Bandundu. Vous avez aussi plusieurs titres honorifiques. Avant de clôturer cette émission, je vous invite à suivre ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît, que nous avons joint pour vous.
Maître Toussi Mokong, je suis le neveu de l'honorable Seigneur Koutou. Pour tout ce temps que j'ai passé avec lui, ce que j'ai retenu de l'essentiel de sa part, d'abord vis-à-vis de sa vie politique, vis-à-vis de l'histoire politique de sa vie, et également vis-à-vis de la famille, parce qu'il est issu d'une grande famille, parmi les professeurs que nous avons dans notre pays actuellement, il est classé parmi six, nous avons cinq personnes, donc il est parmi les cinq. Jésus, comment il a conçu sa vie politique? Il a commencé par que d'abord le conseil juridique du gouvernement provincial du Léo, la Cléopoldé, en 1963, allez se comprendre. Alors là, je crois que la suite de tout ça, jusqu'au vers les années antérieures, jusqu'à ces jours, je crois qu'il a eu à exercer des fonctions énormes dans notre pays. Je le rapproche des fois, moi, il y a de ces fois, il y a des histoires, quand on parle, il faut des fois négliger. Troisième bâtiment, mais chez lui, c'est le contraire. Même si un petit mineur ou pas mineur, tu lui poses une question, il est toujours tout ça intéressant et il va noter. Après avoir noté, il va étudier après pour pouvoir répondre. Alors que moi, à mon niveau en tant que juriste, je trouve que c'est peut-être perdu du temps. Pour clôturer cet entretien, je lui demande, en tant qu'un homme sage, intéressant de ce pays, qui ait le courage, qui ne se fatigue pas. Parce qu'il faut voir l'histoire. Il y a quand même un adage qui dit, on peut être dans un village sans toujours avoir un vieux avec des cheveux blancs, alors qu'il est parmi les vieux. Je crois qu'il peut être le seul parmi tout le monde. Donc je l'encourage pour toute sa vie politique.
Joseph Singaoudiou, je vous ai vu très pensif, très attentif.
Je crois qu'un chef doit contrôler. Moi, je suis un homme très discipliné. J'ai peur de l'échec dans ma vie publique et même privée. Je suis chef d'un village. J'ai des notables que j'écoute, qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais ils me font remarquer dans le respect que notre culture de Bantou impose à tout villageois. Et le détail, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a une certaine légèreté, hein, des choses à peu près. Moi, je suis pour un homme rigoureux. Ce que lui peut-être peut dire sont des détails. Pour moi, ça peut relever qu'aujourd'hui, bon, on est content des à peu près. Voilà. Moi, je suis l'ennemi d'à peu près. Je suis un homme de l'excellence.
Nous allons clôturer cette émission, Joseph Singaoudiou. Quel message pouvez-vous adresser à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment?
Je crois que je dois dire à mes compatriotes qu'ils doivent garder l'espoir dans ce pays. Les problèmes sont énormes, mais il n'y a que nous, nous-mêmes, organisés, réunis au sein des axes principaux. C'est nous-mêmes qui allons changer ce pays. Mais nous leur demandons aussi de ne pas attendre. Parce que j'ai un sentiment aujourd'hui que les gens attendent de tout de l'extérieur. Même pour réparer un petit pont là d'un mètre au village, on attend que l'étranger vienne. Non, ils viennent nous assister. C'est nous qui devons le faire. Et puis, à ceux qui exercent le pouvoir, ils doivent savoir qu'ils doivent rendre des comptes. Et que la population lui attend de nous tous qui exerçons un certain pouvoir public. La population attend des actes concrets et plus de discours. On est fatigué des discours. L'année prochaine, c'est 50 ans d'indépendance. Je crois, le grand problème, qu'est-ce que nous allons dire à notre peuple ? que nous allons leur montrer nos difficultés et les points positifs qu'on a pu poser. Voilà, c'est évidemment la population des Russes Unies de ne pas céder au désordre. Nous sommes un peuple pacifique, mais de s'exprimer quand il y a un problème et pas créer à l'hypocrisie. Voilà.
Joseph Singaoujou, Ongwankebe, Ontoube, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci, merci beaucoup, en tout cas de l'honneur que vous me faites.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Joseph Singaoujou, ancien premier ministre, ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre de la Justice, président du Conseil judiciaire, ministre des Transports, ministre du Plan et Reconstruction, actuellement député national, à la technique Alain Ngoy, à la présentation Alain Hiroud. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Koutou dans la province du Bandundu et partout dans le monde.